Bonjour, je vais vous présenter mon analyse linéaire du mariage de Figaro, acte 4, scène 3, et je vais commencer par la lecture. As-tu ce qu'il nous faut pour troquer de vêtements? Il ne faut rien, madame. Le rendez-vous ne tiendra pas. Ah, vous changez d'avis? C'est Figaro. Vous me trompez. Bonté divine. Figaro n'est pas homme à laisser échapper une dot. Madame, et que croyez-vous donc? Qu'enfin, d'accord avec le comte, il vous fâche à présent de m'avoir confié ses projets. Je vous sais par cœur. Laissez-moi. Au nom du ciel, espoir de tous, vous ne savez pas, madame, le mal que vous faites à Suzanne, après vos bontés continuelles et la dot que vous me donnez. Eh, mais je ne sais ce que je dis. En me cédant ta place au jardin, tu n'y vas pas, mon cœur. Tu tiens parole à ton mari, tu m'aides à ramener le mien. Comme vous m'avez affligée. C'est ce que je ne suis qu'une étourdie. Une étourdie. Où est ton rendez-vous? Le mot de jardin m'a seul frappé. Prends cette plume et fixe-toi un endroit. Lui écrire? Il le faut. Madame, au moins c'est vous. Je mets tout sur mon compte. Chanson nouvelle sur l'air. Qu'il fera beau ce soir sous les grands marronniers. Qu'il fera beau ce soir. Sous les grands marronniers, après? Crains-tu qu'ils ne t'entendent pas? C'est juste. Avec quoi cacheter? Une épingle, dépêche. Elle servira de réponse. Écrit sur le revers, renvoyez-moi le cachet. Ah, le cachet. Celui-ci, madame, est plus gai que celui du brevet. Donc, à présent, je vais vous faire mon analyse de ce commentaire linéaire. Donc, Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais est né le 24 janvier 1732 à Paris et meurt le 18 mai 1799. C'est un écrivain et dramaturge français. Beaumarchais écrit Le mariage de Figaro en 1778. Cette pièce de théâtre raconte le mariage d'un valet prénommé Figaro. Lors de cette journée, rien ne se passe comme prévu, car le comte veut séduire la femme de Figaro. Pour lui tenir tête, le valet met en place plusieurs pièges. Dans cet extrait, acte 4, scène 3, nous retrouvons Suzanne et la comtesse en pleine conversation. Elles préparent un mauvais tour au comte, mais font face à plusieurs obstacles. Dans une première partie, de la ligne 1 à 13, nous verrons la rivalité sociale et amoureuse des deux femmes dans une scène agonistique. Enfin, dans une deuxième partie, de la ligne 13 à 33, nous étudierons la complicité amicale dans une scène tendre. Par ailleurs, nous allons répondre à la problématique suivante: de quelle manière Beaumarchais nous montre-t-il la solidarité féminine dans cet extrait? Pour commencer, cet extrait nous montre une rivalité sociale. En effet, nous avons un changement de pronom de la ligne 1 à 10. As-tu, ligne 1, vous changez d'avis, ligne 3, ligne 6, vous me trompez, ligne 10, il vous fâche. La transformation du pronom tu en vous marque le fait que la comtesse est très fâchée contre Suzanne et la domination de la comtesse. Puis, il y a une phrase non verbale à la ligne 4. Suivi d'un point d'exclamation. Ce point d'exclamation signifie un effet d'étonnement de la comtesse et nous pouvons l'imaginer en train d'hausser le ton. Ensuite, la comtesse utilise une question rhétorique, ligne 4. Vous changez d'avis? Cette question montre le questionnement de la comtesse, mais aussi sa domination sur Suzanne. Par ailleurs, Suzanne utilise un juron. Ligne 7, bonté divine. Suivi d'un point d'exclamation, cela explique le fait que Suzanne est d'autant plus énervée. Mais encore, on trouve une phrase non verbale suivie d'un point d'exclamation, ligne 9, madame, ce qui montre encore une fois l'énervement de cette dernière. Elle utilise une question rhétorique, ligne 9, et que croyez-vous donc? Cela exprime son désarroi face à la comtesse. D'ailleurs, il y a une pointe de jalousie de la part de la comtesse. En effet, ligne 10, qu'enfin d'accord avec le comte, il vous fâche à présent de m'avoir confié ses projets. Ici, la comtesse pense que Suzanne a accepté les avances du comte. Aussi, le mot à présent suppose un changement récent de Suzanne. Puis, le verbe laisser à l'impératif présent, ligne 11, laissez-moi, marque le fait que la comtesse donne un ordre à Suzanne. ce qui montre sa supériorité. La didascalie ligne 11, elle veut sortir, renforce le fait qu'elle soit très en colère. Par ailleurs, Suzanne se place en victime de la ligne 12 à 13. En effet, la didascalie se jette à genoux, montre son impuissance face à la comtesse. Aussi, elle implore son pardon dans une phrase de supplice, ligne 12, au nom du ciel, espoir de tous. Nous pouvons dire que ce passage est pathétique, car nous avons de la peine pour Suzanne. Enfin, nous avons vu la rivalité entre la comtesse et Suzanne. À présent, nous allons découvrir la réconciliation de ces deux jeunes femmes dans une scène tendre. Cette deuxième partie du texte s'ouvre avec une didascalie, ligne 14, la relève. Ici, la comtesse pardonne à Suzanne. Puis il y a un retour au tutoiement, ligne 14-15, tu places, tu n'y vas pas, tu tiens et tu m'aides, ce qui montre la réconciliation de la comtesse envers Suzanne. L'utilisation de mon cœur, ligne 15, montre l'affection de Rosine à Suzanne. Par ailleurs, les didascalies, ligne 17, elle la baise au front, et ligne 19, lui baise la main, reflète une forte proximité entre les deux personnages et un geste de tendresse. Par ailleurs, la comtesse et Suzanne collaborent ensemble pour tendre un piège au comte. Ligne 20, prends cette plume et fixons un endroit. Ici, l'usage du pronom « nous » permet de montrer leur solidarité. Elles vont faire ce piège ensemble, main dans la main. De plus, la comtesse participe au piège. Elle lui donne la plume et le papier déjà installé par la comtesse. Ligne 20, prends cette plume et fixons un endroit. Et elle dicte la lettre, ligne 24, la comtesse dicte. Aussi, Suzanne aide la comtesse en écrivant la lettre ligne 27. Suzanne écrit « Sous les grands marronniers, après ». En la relisant, ligne 29, Suzanne la relie. Enfin, elle la cachette avec une épingle qu'elle fournit. Ligne 30, une épingle dépêche. Enfin, Suzanne parle par sous-entendu, ligne 32. Ah, le cachet, celui-ci, madame, est plus gai que celui du brevet. Cela fait allusion à Chérubin. C'est un retour à la complicité qu'elles avaient au début de la pièce. En guise de conclusion, dans cet extrait, l'amitié de Suzanne et de la comtesse est en jeu. Mais après un règlement de compte, elles finissent par se réconcilier en élaborant un piège contre le comte. Nous pouvons affirmer le fait que leur amitié est très forte et qu'elles sont solidaires. À présent, je vais passer à la question de grammaire qui était « Comment est utilisé l'impératif dans le texte ?» Tout d'abord, l'impératif est un mode, il s'utilise au présent ou au passé. Il n'y a seulement que trois personnes, tu, nous et vous. Il est utilisé dans ce texte pour montrer la domination de la comtesse qui utilise des ordres, ligne 11, laissez-moi, et ligne 20, prends cette plume. Mais cela montre aussi des émotions comme la colère, ligne 11, laissez-moi. Pour terminer cet oral, je vais vous parler de ma lecture cursive que j'ai choisie. Donc j'ai choisi Thèse d'Uberville. Ce roman a été écrit par Thomas Hardy et est publié en 1891. Thomas Hardy est un écrivain britannique qui est né en 1840 et qui est mort en 1928. Thèse d'Uberville prend place au Wessex à la fin du XXIe siècle. J'ai choisi de présenter ce livre pour trois raisons. Tout d'abord, l'auteur nous fait une critique de la société victorienne sur l'injustice faite aux femmes. En effet, avoir des relations sexuelles avant le mariage était toléré pour les hommes et non pour les femmes. Aussi, le personnage principal, Tess, est très intéressant. C'est une femme très naïve par son jeune âge, mais aussi courageuse et travailleuse. Ce personnage est admirable car pour se faire pardonner de sa situation, elle décide de travailler pour subvenir aux besoins de sa famille. Enfin, je trouve ce livre riche en rebondissements et son côté tragique est très prenant. Par exemple, le moment le plus marquant est celui du baptême de son enfant. Tess baptise son enfant avant qu'il ne meure pour qu'il trouve le salut. Elle le baptise Chagrin, ce qui fait référence à la Genèse. Ce moment est riche en émotions. Tess est à la fois très triste de voir son enfant mourir, mais aussi déterminée à le baptiser. Elle fait preuve de bravoure pour son jeune âge. Cela a permis à Tess de mieux vivre la perte de son enfant. Cela m'a beaucoup touchée. Donc voilà, j'en ai terminé pour cet oral. Merci de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne journée.